Alors, puisque Daniel Langlois ne veut pas que je fasse un discours, je vais faire une prédication. Alors, je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 1, le verset 18. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est que Noël, c'est la fête de l'espoir et de l'amour pour l'humanité. Je vous ai mis une illustration, une image à l'écran, pour qu'on puisse s'imaginer qu'est-ce qu'aurait de l'air une route s'il n'y avait pas de direction, s'il n'y avait pas de ligne, s'il n'y avait pas de feu de circulation, s'il n'y avait aucun panneau, juste des routes comme ça. Eh bien, à un moment donné, ça pourrait devenir un chaos. Parce que les panneaux indicateurs, les feux de circulation, les directions qui sont données par les sens uniques, eh bien, ça nous donne des repères pour savoir comment se diriger. Comment se comporter avec un volant. Et Noël est, à mon avis, un point de repère important dans notre culture. Même si elle n'est pas toujours fêtée de la bonne façon, même si on n'y fait pas toujours allusion de la bonne façon, il reste que néanmoins, c'est un repère important. Moi, je suis toujours content, je me réjouis. Quand j'ouvre la radio, puis on entend des cantiques comme on a chanté aujourd'hui, où est-ce qu'on fait justement référence à la personne de notre Sauveur qui est venu sur la terre. On fait référence à lui dans une crèche, parce que c'est un signal clair que Dieu a donné à l'humanité. C'est le moment historique le plus important de l'humanité. Parce que s'il n'y avait pas de venue du Christ sur la terre, il n'y aurait pas eu de crucifixion, il n'y aurait pas eu de rédemption, il n'y aurait pas eu le rachat de nos fautes, le rachat de nos personnes. Qu'est-ce que serait le Québec sans Noël? Vous êtes-vous déjà posé la question? Imaginez-vous, à cette période-ci, aucune lumière devant les maisons, aucun chant de Noël, aucun sapin de Noël, aucune crèche, aucun joyeux Noël, aucune fête où est-ce qu'on s'échange des cadeaux, aucun repas de famille significatif qui nous réunit, mais tout simplement un congé des neiges. Parce que c'est sûr, les syndicats vont vouloir récupérer ces congés-là en disant « faut garder les congés, même si on ne fête plus Noël ». On a traditionnellement des congés pour se reposer dans le temps des neiges. Imaginez-vous, vous ouvrez la radio et vous n'avez aucun chant de Noël. Ça met de l'ambiance dans une maison, la musique de Noël. Tu sais, quand c'est, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de ces chants-là qui ont un côté festif, joyeux, réjouissance, d'autres chants qui ont un aspect profond. Mais savez-vous quoi? Noël, au-delà de la fête, puis au-delà de ce qu'on en a fait, c'est un moment drôlement significatif. J'ai demandé de tourner avec moi dans Matthieu, chapitre 1, verset 18. Et ça nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Et je vous inviterai à considérer que la naissance de Jésus-Christ, c'est une naissance qui est extraordinaire. Extraordinaire parce que, premièrement, Marie a été enfantée par le Saint-Esprit puis nous a donné un sauveur. Et cette naissance, c'est un signe d'espoir. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils habitent ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et ça, c'est le point sur lequel je veux insister aujourd'hui. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, essentiellement, c'est rapidement les prophéties, parce que comme on vient de le voir dans le texte, au verset 22, la venue du Seigneur était là afin que s'accomplisse ce qui avait été prophétisé sur lui. Rapidement également la nativité, puis dans quelles conditions serait le Québec sans la venue de Jésus-Christ. C'est essentiellement ça qu'on va voir. Et on va voir également le sens de Noël de la part de Gilles Proulx, Pierre Verville et Denise Bombardier. Et donc, ce que ça va nous amener, c'est à conclure qu'en tant que Québécois, on a besoin du vrai sens de Noël. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, on va prendre le temps de se recueillir parce que tu veux parler à nos cœurs. Parce qu'au-delà de ce qu'on a fait de Noël, le point central, c'est ta venue. C'est un moment vraiment spécial parce que tu aurais pu te priver de ce moment-là, rester là où est-ce que tu étais dans ton ciel, mais tu es venu souffrir parmi nous, subir notre vie. On en est reconnaissant, Seigneur, que tu l'as fait pour nous. On te remercie abondamment. Amen. Et donc, les prophéties. Il y en a beaucoup de prophéties, je ne les passerai pas tous, je vais les passer en rafale. Mais comme on l'a vu dans le texte, c'était un descendant de David. On voit ça dans 2 Samuel 7, dans Matthieu. Et il est né à Bethléem. Et ça, c'est intéressant. Michée 5, verset 2. Parce que moi, avant ma naissance, là, je savais pas que j'allais naître à Cartierville, à l'hôpital Sacré-Cœur. Moi, je ne le savais pas, moi. Mes parents le savaient, mais moi, je ne le savais pas. Et d'annoncer d'avance qu'un prophète, que le Sauveur allait naître à Bethléem, c'est tout un tour de force. C'est le seul prophète que sa naissance géographique a été annoncée d'avance. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais toutes les religions sont sur le même pied d'égalité. Les jeunes, c'est ça qu'ils apprennent à l'école, dans le cours d'éthique et culture religieuse. Mais ça, c'est pas sur le même pied d'égalité parce que le gourou Nanak, Mahomet ou Mohamed, Bouddha, leur naissance géographique n'a pas été annoncée d'avance. Il est né d'une vierge, déjà là c'est un miracle. C'était prophétisé qu'il allait aller en Égypte puis revenir en Israël. Écoute, quand tu es adulte puis tu lis le texte, par exemple, tu dis, je vais faire semblant que c'est moi, fait que je vais aller en Égypte, ça va accomplir la prophétie. Mais là, le problème, c'est qu'il était enfant, puis c'est ses parents qui ont décidé. Il ne serait pas physiquement attirant. On voit ça dans Ésaïe 53, psaume 22, dans Marc, dans Philippiens. Encore là, c'est pas lui qui a décidé ça. On ne décide pas de la façon qu'on va naître. Physiquement, si on va être grand, petit, petit-né, gros-né, etc. Que son message ne serait pas cru, que ses disciples l'abandonneraient. Et Daniel a prophétisé l'année de sa crucifixion. On voit ça dans Daniel 9, 25. On dit qu'aucun de ses os serait brisé. Parce que quand il a été crucifié, Jésus, on voulait lui casser les os des jambes pour qu'il puisse s'affaisser puis perdre le souffle. Mais ils n'ont pas dû avoir à le faire parce qu'il était déjà mort. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que quand ils ont percé le côté pour faire couler le sang, il y avait de l'eau et du sang. Et ce que j'ai appris, c'est que quand il y a de l'eau et du sang qui coule, c'est que normalement, si une personne est morte d'une lacération cardiaque, qui est le résultat d'une grande tristesse, d'un grand chagrin. Il a été enterré avec les riches. Il est ressuscité des morts. On voit ça dans le psaume 16, Luc 24, acte 2. Et on a le récit de sa nativité dans Luc chapitre 1 et 2, dans Matthieu chapitre 1 et 2. Et là, on va revenir. Il y a eu ces prophéties-là sur sa naissance, sur son ministère, sur l'œuvre qu'il devait accomplir. Il devait mourir pour nos fautes, nous racheter et ressusciter des morts. Et quand il est venu sur terre, comme on l'a vu, l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie la naissance de Jésus. Et à ce moment-là, Joseph voulait rompre. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, wow, un instant, là, c'est pas moi qui l'ai enfanté, fait que c'est quelqu'un d'autre certainement. Et ça l'a pris la visite d'un ange pour le convaincre. Il a dit, non, abandonne pas ta fiancée, parce qu'elle va porter le Messie. Et par la suite, Marie visite Élisabeth et elle va dire, mon cœur est plein de joie à cause de mon Sauveur. Marie reconnaît que celui qu'elle porte va être son Sauveur. Et elle va dire après, il a abaissé son regard sur moi, son humble servante. Après Jésus naît, et vous connaissez l'histoire, Joseph s'en va avec Marie pour le recensement, et le seul lieu qu'il trouve pour s'héberger, pour accoucher, pour que Marie puisse donner naissance à son petit Emmanuel, Jésus, eh bien, c'est dans une étable, dans une crèche. Et on voit les bergers arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une apparition d'ange. Et là, c'est un moment spécial. Parce que les bergers, le Seigneur a fait en sorte que parmi les premiers qui ont assisté à la venue de notre Sauveur, ce sont des bergers, des gens qui n'étaient pas pris au sérieux, des gens que lorsqu'ils racontaient des histoires, on pensait toujours que c'était exagéré. C'était pas des gens qui étaient scolarisés, c'était des gens qui pouvaient dire un peu n'importe quoi. Tu sais, comme nous, on a une expression ici au Québec, c'est une histoire de pêcheur ou c'est une histoire de chasseur, tu sais, parce qu'il y a toujours de l'exagération. Mais dans ce temps-là, c'était, c'est une histoire de berger. Et pourtant, je me dis, il me semble que si j'étais le conseiller du Seigneur, puis je pense que le Seigneur n'a pas besoin de moi comme conseiller, là, il est capable de faire le travail bien mieux que moi. Là. Mais si j'étais son conseiller, je dirais, Seigneur, c'est pas marketing, ça. Apparaît pas au berger. C'est pas vendeur du tout. Ça sera pas crédible. Pourquoi le Seigneur le fait? Parce qu'il veut qu'on repose notre foi sur les Écritures d'abord. Parce que les choses sont arrivées conformément à ce qui est écrit. Et ça, c'est la base, c'est l'appui de notre espérance. Que le récit de la nativité s'est produit conformément à ce qui avait été prophétisé. Notre foi ne doit pas reposer sur nos impressions, nos intuitions, mais sur la parole de Dieu. La Bible, le livre que Dieu nous a donné. Et quiconque veut mettre en pratique, quiconque veut mettre à l'épreuve la parole de Dieu, il va réaliser que tout ce qu'elle dit s'accomplit. Pas seulement au niveau des prophéties, incluant les prophéties, mais dans toutes les promesses que Dieu nous a données dans sa parole, eh bien, lisez-le, méditez-le, et soyez témoins de leur accomplissement, parce que tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et après, on voit la circoncision de Jésus, la consécration de Jésus. On voit que les parents de Jésus ont offert deux pigeons. Et selon la loi de Moïse, ça c'est quand tu étais pauvre que tu offrais des pigeons. Ça veut dire que c'était une famille pauvre. Et par la suite, dans Matthieu 2:11, on voit l'arrivée des mages. Et là, il y a une petite correction culturelle à faire. Parce que ça arrive des fois dans les petites crèches, là, en bois ou en plastique, qu'on voit les rois mages, trois, là. Mais ils ne sont pas arrivés quand Jésus était à la crèche. Ils sont arrivés quand Jésus, Marie, Joseph étaient dans une maison. C'est beaucoup plus tard. C'est même après la circoncision de Jésus qui devait avoir lieu 8 jours, à son 8e jour. Donc, c'est plus tard que les mages sont venus. Et c'est dit que les mages, ils entrèrent dans la maison. Alors, les petits bonhommes là, qui sont dans la crèche n'étaient pas là. Ils sont venus, mais plus tard. Et qu'est-ce qui a suivi la visite des mages, des rois d'Orient, le massacre des enfants? Un côté désastreux qui avait été commandé par Hérode parce qu'il ne voulait pas que les Juifs aient leur roi et que les Juifs se libèrent de l'Empire romain. Ça aurait été une défaite pour son règne à lui et il savait que César allait l'éliminer. Puis dans ce temps-là, ce n'était pas un congédiement avec une prime de départ. C'était, tu perdais la tête, littéralement. Et c'est pour ça que Joseph part avec Marie et Jésus plusieurs mois en Égypte. Et ils sont revenus. Et Jésus grandit en stature, en grâce, en sagesse. Et on voit rapidement qu'il s'intéresse aux choses de son Père. Et assez rapidement, on voit que Jésus commence son ministère. Et le gros des évangiles, c'est effectivement le ministère de Jésus. À partir du moment qu'il est baptisé et qu'il se met à accomplir ce que la parole de Dieu dit à son sujet, les miracles qu'il fait. Et c'est pour ça que quand des gens venaient, des aveugles, puis disaient, ta foi te guérit, parce qu'ils ont cru les textes qui disaient, un jour, le Sauveur va venir, il va guérir les boiteux, il va guérir les aveugles. Ils ont mis leur foi dans ce que c'était lui qui était l'accomplissement de ces textes-là. Ils disaient, hey, t'es venu à la bonne source, à la bonne personne, je suis celui qui est annoncé d'avance, ta foi te guérit. Et je vous raconte ça, simplement faire un résumé rapide, parce que qu'est-ce que serait le Québec sans la venue de Jésus-Christ? Le sens de la venue de Jésus-Christ, c'est un témoignage d'amour que Dieu ne nous a pas oublié, que Dieu nous considère dans notre humanité. Il n'est pas venu dans sa forme divine, il n'est pas venu sous une forme transparente, un peu comme un genre de fantôme. Il n'est pas venu, par exemple, comme un genre d'hologramme, là, tu sais. Ce que tu ne peux pas toucher, on dirait que c'est lui, c'est la même forme, mais tu peux passer ta main au travers. Il est venu physiquement comme un homme, avec les mêmes réalités d'homme, avec les mêmes besoins que tous les hommes. Et il a voulu démontrer à l'humanité son amour pour l'humanité puis son amour pour le genre humain. S'il n'y a pas de venue de Jésus-Christ, il n'y a pas de résurrection. Et s'il n'y a pas de résurrection, qu'est-ce que Paul dit? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. En d'autres mots, tout ce qui nous reste sur la terre, c'est d'essayer d'aller chercher et récupérer un petit peu de plaisir, parce que la vie n'a aucun sens. On est pour mourir. Profitons-en au maximum, parce que tout se passe dans cette vie-là, puis après ça, ça s'éteint. On va travailler à la sueur de notre front. On va essayer de passer au travers de toutes les épreuves de la vie pour dire après ça, c'est fini. Il me semble que la vie n'a pas de sens, c'est ça. Les meilleurs réussissent en s'imposant sur les autres. Il me semble que la vie n'a pas de sens, c'est ça. S'il n'y a pas de venue de Jésus-Christ, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'évangile. S'il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de puissance qui transforme, qui libère, qui guérit, qui change notre perspective, qui nous amène à aimer autre chose que nous-mêmes. Ça, c'est un grand miracle. Hein? Aimer autre chose que nous-mêmes, ça, c'est le sens de l'évangile. Jésus-Christ, c'est ce qui a démontré que Dieu est capable d'aimer autre chose que lui-même. Ça, c'est le sens de Noël. Qu'est-ce que serait le Québec s'il n'y avait plus aucun chrétien, disciple de Jésus-Christ, parmi notre nation? Déjà que notre nation ne va pas bien. En apparence, ça va bien. Mais, vous savez, le nombre de divorces a augmenté. Entre 1969 et 2005, on est passé de 8,8% à 51,9%. Sur le plan de la vie, par exemple, un Québécois sur sept prend des antidépresseurs. Vous savez que les Québécois n'ont jamais consommé autant d'antidépresseurs. En 2010, c'est plus de 13 millions d'ordonnances qui ont été remplies uniquement dans la province. Et moi, je suis pas contre les antidépresseurs. Écoutez, si ma femme avait pris les bons antidépresseurs, elle serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Je suis pas contre. Il y a des temps où est-ce qu'on a besoin de médicaments de la même manière que quelqu'un qui souffre de diabète a besoin d'insuline. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on vit un mode de vie qui est tellement intense que pour beaucoup, c'est difficile de tenir le rythme. C'est une vie exigeante qu'on vit ici au Québec. Il y a des bons côtés à la prospérité, mais il y a également des effets négatifs et des effets pervers. Il y a des endroits dans le monde où est-ce que les gens sont pauvres, mais n'ont pas besoin d'antidépresseurs. Ils vivent d'autres carences, d'autres problèmes, d'autres misères, mais pas celui-là. Une industrie qui est florissante, c'est les nouvelles formes de spiritualité qui incluent l'occultisme. Et si Noël n'existait pas, et si Jésus-Christ était rayé de la carte du Québec, c'est certain qu'il y aurait un bon nombre de gens qui se tourneraient vers d'autres sources de spiritualité parce que l'être humain a été conçu pour dépendre de Dieu. Mais le problème, c'est que ça n'offre aucune protection, aucun engagement, aucune certitude. Alors que Jésus-Christ, lui, s'est engagé. Il y a des promesses qui sont associées à sa venue. Il y a des promesses qui sont associées à ses enfants. Et donc, c'est en lui qu'on trouve une source d'espoir. Sur le plan psychologique, on est toujours au Québec le top 5 des gens qui s'enlèvent la vie. 21,3 décès par 100 000 personnes au Québec en 2009. C'est énorme. Et savez-vous quoi? Samin Mounir avait dit que la raison pour laquelle il y a tant de gens qui se suicident, c'est trois choses. Il n'y a pas de héros dans notre nation, dans notre histoire sur lequel on peut s'identifier. Deuxièmement, le fait que beaucoup de jeunes ont appris par le jeu, ça le produit. Et ça, c'est un psychologue qui dit ça. Une incapacité à passer au travers les épreuves. Parce que si ce n'est pas le fun, on décroche. Et le point le plus pertinent qui va dire, c'est parce que la plupart des gens qui s'enlèvent la vie, pas tous, mais la plupart, c'est parce qu'ils n'ont pas de confident pour parler de leur réel état du cœur. C'est spécial parce que moi, c'est la première chose que j'ai apprise quand le Seigneur m'a sauvé, c'est que je pouvais tout lui dire parce qu'il voyait tout. J'ai même pu lui dire un jour, je me souviens exactement où est-ce que j'étais. J'ai dit, Seigneur, j'ai un problème, je ne t'aime pas. J'avais tellement peur qu'il me donne une claque en arrière de la tête. Puis c'est comme si, il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est, tu ne penses pas que je ne le voyais pas. Tu ne penses pas que je ne le savais pas. J'attendais juste que tu me le confesses, tu me l'avoues. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'il a développé en moi un amour pour lui. S'il n'y avait pas Noël, il n'y aurait pas ces festivités, il n'y aurait pas ces marques d'affection, il n'y aurait pas ces lumières, comme je vous disais. C'est tellement fort, Noël, que ça fait vivre des gens. Ça fait vivre des entreprises. C'est un des moments les plus lucratifs pour les entreprises, c'est la période de Noël. Puis une des raisons pour lesquelles, même s'il y a un lobby très fort qui veut enlever Noël de notre culture, le monde du commerce dit non, c'est trop payant. On ne peut pas l'enlever. On va essayer d'y donner un autre sens, mais on ne peut pas enlever Noël. S'il n'y avait pas Noël, on n'aurait pas un message d'un Dieu d'amour compatissant, juste. Noël, c'est plus que des cadeaux. Écoutez, Gilles Proulx, lui, il trouve un sens mystique. Lui, Gilles Proulx a voyagé un peu à travers le monde. C'est un historien, c'est un passionné d'histoire, puis aime ça aller voir différents pays, différentes cultures, les analyser, puis en partager. Puis à un moment donné, il s'est promené au Maghreb, puis il a passé des soirées puis des nuits dans le désert. Puis écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, « Ne serait-ce que jeter un coup d'œil au firmament dans le désert, quand vous passez une nuit dans un ancien fort de la Légion, vous vous réveillez à 2 heures du matin et vous avez cette voûte éclairée. Alors, ça vous mène à une réflexion. Vous devenez méditatif. Je comprends Saint-Exupéry ou Jésus-Christ, tous ceux qui ont décidé de séjourner dans le désert et de l'aimer parce que le désert, ça parle, ça bouge. » Pierre Verville, comédien humoriste, il dit « Enfant, je croyais dur comme fer au bon Dieu, à Jésus, à l'Église. Je n'ai jamais cessé de croire en Dieu. Ce n'est pas parce que je me suis éloigné de la pratique de la religion catholique que j'ai cessé de croire à un être suprême. » Écoutez bien ce qui... Et là, à un moment donné, dans ce livre qui s'intitule « Dieu dans tous ses états », il va parler de sa relation avec sa conjointe. Il dit « Je crois que j'aurais de la difficulté à vivre au quotidien avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs et à peu de choses près les mêmes croyances que les miennes. » Moi, c'est exactement pour ça que quand je suis tombé veuf, je voulais marier une chrétienne qui avait les mêmes valeurs et les mêmes croyances que moi. Parce qu'on va partager notre vie. Il me semble que ça fait du sens, ça. En tout cas, je suis content que Pierre Verville a cette vision des choses-là. Puis concernant ses enfants ou son enfant, il lui dit, « Je lui raconte ce que je connais de la vie du Christ en soulignant les valeurs de son enseignement. Je lui explique qu'il existe aussi d'autres religions, d'autres dieux, et j'essaie de lui donner le plus possible d'outils pour qu'il puisse faire ses choix un jour. Puis ma prière, c'est que son enfant puisse découvrir Jésus-Christ comme son sauveur. » Denise Bombardier, tout récemment, la semaine dernière, elle a écrit dans un article qui s'intitule « Noël, une vieille histoire ». Elle a dit « Noël est un archaïsme pour ceux qui croient que l'homme est son propre Dieu. » C'est fort, ça. Moi, j'aime ça. La spiritualité avec ou sans Dieu est une dimension essentielle qui distingue l'homme de l'animal. En ce sens, l'histoire de Noël donne un sens à notre vie. L'histoire de Noël donne un sens à notre vie. Un, on n'est pas des animaux. c'est normal qu'on se tourne vers Dieu. Deux, le sens de la vie se trouve en Jésus-Christ. C'est exactement ça. Ça, c'est l'Évangile, ça. Le sens de la vie se trouve en Jésus-Christ. Parce que en dehors de Jésus-Christ, la Bible dit qu'on est perdu. Mais la bonne nouvelle, et malheureusement, quand des non-chrétiens nous écoutent, et peut-être que toi tu es en ligne, puis tu nous écoutes, tu dis, ah, c'est toujours une mauvaise nouvelle que vous annoncez, c'est toujours le péché, le mal, puis c'est donc sombre. Non, la bonne nouvelle, c'est que justement, il est venu pour nous amener dans la lumière, pour nous sortir des ténèbres, pour vivre une joie auprès de lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves. Ça veut dire qu'on a une consolation auprès d'un consolateur. Ça veut dire qu'on a un support auprès d'un sauveur. Ça veut dire qu'on a des lignes claires auprès d'un maître, d'un seigneur. Ça veut dire qu'il y a une vie éternelle auprès de lui qui nous offre gratuitement, qui nous donne parce qu'il a subi notre condamnation. C'est une bonne nouvelle. On est libéré. Mais pour comprendre, pour saisir cette bonne nouvelle-là, il faut voir dans quelles ténèbres on est plongé. J'ai besoin d'air quand je m'étouffe. Je ne suis pas conscient que je respire, moi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Toi, tu te marches, je dis, hey, je suis en train de respirer en ce moment? Non, c'est quand tu manques d'air que là, tu en as besoin puis tu as cherché. Mais c'est quand que tu es perdu que tu as besoin d'un sauveur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est là, il est accessible. Il est disponible. Si tu entends sa voix aujourd'hui, s'il frappe à la porte de ton cœur, ferme-lui pas, sauve-toi pas, échappe-toi pas, cache-toi pas, fuis pas. C'est le moment le plus précieux de ta vie. De la même manière que la venue de Jésus sur terre, c'est le moment le plus précieux de l'humanité. Mais peut-être aujourd'hui, c'est le moment le plus précieux de ta vie, parce que là, Jésus-Christ ne viendra pas sur terre, il va venir dans ton cœur. Pour des milliers de Québécois et des millions de francophones, la venue de Jésus, c'est la venue de Dieu qui s'est fait homme. Et le signal qu'il nous a lancé, c'est que le péché est mal, mais l'humanité est bonne. Parce qu'il s'est fait homme. Et Jésus-Christ, là, c'était pas un fantôme enveloppé d'un corps, c'était un être humain à 100%. Si tu pilais sur le pied, il disait « aïe aïe ». Quand on l'a frappé de coups de fouet, là, il les a sentis, les coups de fouet. Ça y a fait mal. Il n'a pas aimé ça. Il angoissait jusqu'à la mort avant d'arriver à ce moment-là. Il a été fatigué, il a eu soif, il a eu faim, il a été triste, il a été ému, il a frémé. Imaginez-vous, en revisant ce message-là, je réalisais la tristesse, c'est une émotion qui origine en Dieu. C'est pas le résultat du péché. Oui, c'est vrai que dans l'éternité, il n'y en aura plus de tristesse. Mais Jésus-Christ a été triste jusqu'à la mort. Il n'a jamais péché. Il y a des situations dans nos vies où est-ce que la tristesse est au rendez-vous. On ne doit pas se sentir mal d'être triste parce que la situation amène une tristesse. Et c'est de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'auprès de lui, on voit ça dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7, c'est que si on a part à la souffrance, l'engagement de Dieu, c'est qu'on a part à la consolation. Elle est disponible, la consolation. Elle arrive peut-être pas là, au moment où est-ce qu'on en a besoin, comme si on pèse sur le bouton, puis il faut que ça sorte, il faut que ça arrive. Tu sais, quand tu mets de l'argent dans une machine distributrice, tu pèses sur le piton, ça tombe instantanément. Puis si ça ne tombe pas, tu as le goût de brasser la machine. Mais Dieu va la donner fidèlement en son temps. Sa venue, c'est une source d'espoir parce que Romains 8 nous dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Savez-vous quoi? En terminant, l'absence de Jésus-Christ amènerait un chaos sur terre. Mais la présence de Jésus-Christ, sa venue, sa mort et sa résurrection nous donnent de l'espoir. Et cet espoir-là, elle ne s'arrête pas à nous. Combien de gens en ont bénéficié par des services d'aumônerie, par exemple, dans différents secteurs à travers la province, par des parrainages d'enfants, par la distribution de paniers de Noël, par des œuvres humanitaires, par des soutiens aux familles. On pense à la famille syrienne, par exemple. Par des visites, des écoutes, des gens qui... Combien de fois est-ce que ça t'est arrivé de rentrer à l'église la tête basse, puis t'es ressorti la tête haute? Combien de fois simplement de te sentir écouté par un frère ou une sœur, de recevoir un bon conseil, te sentir compris? J'en entends qui me disent, oui, mais tu peux vivre ça en dehors de la grande famille chrétienne. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour vivre ça. Mais savez-vous, c'est quoi qui fait la différence? C'est que quand quelqu'un te donne une parole qui vient de Dieu, qui trouve sa source dans la parole de Dieu, tu as une assurance que la chose va s'accomplir. Tu as un repos, tu as un espoir, tu n'as pas besoin de faire de l'anxiété parce que tu dis, si c'est Dieu qui dit ça, c'est clair. C'est un engagement de Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et combien de fois, moi, ça m'est arrivé d'entendre une parole qui est une réponse à une prière, d'entendre un message qui me confirme, par exemple, la voie que je dois suivre. Me sentir aimé conditionnellement par des frères, des sœurs, ça fait toute la différence. Nos rassemblements du dimanche sont précieux parce que savez-vous quoi? Ça nous donne une occasion de sortir de notre isolement. Et Pierre, dans son chapitre 5 de sa première lettre, va dire, faites attention, hein? Notre adversaire, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui s'approie. Puis qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, oubliez pas que vous allez être éprouvés comme tous vos frères dans le monde entier, de la même manière. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que souvent on se pense seul dans notre épreuve, puis en parlant avec d'autres, on réalise que même si le contexte est un peu différent, les gens autour de nous vivent sensiblement les mêmes défis. Et le fait qu'on peut ensemble aller vers le Seigneur, ça peut faire toute la différence. J'expliquais à un ami récemment, j'ai rencontré un ami, je ne sais pas si je voulais raconter celle-là, mais un ami de jeunesse, c'était mon meilleur ami de jeunesse. Puis, bon, on revient un peu sur le décès de ma première épouse, puis on me pose la question, est-ce que toi, tu aurais marié, par exemple, quelqu'un qui n'est pas de ta foi, tu sais? Grosse question. Hein? Je dis non. Oh que non. Je dis, moi, j'aime ça le soir, s'il arrive quelque chose avec mes enfants, de dire à Nathalie, hey, on va prier ensemble. On va prier pour nos enfants. De partager, par exemple, si je lis quelque chose ou on entend un message, de partager ensemble qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce qui nous parle au travers de ça. J'ai bien de la difficulté, moi, de vivre une vie puis partager ma vie avec quelqu'un qui met une barrière face à mes croyances. Toi, je t'aime, mais pas tes croyances. Bien, ça fait partie de moi. Nos croyances, c'est ce qui est de plus fondamental chez l'être humain. Nos croyances, c'est ce qui est incontournable. Nos croyances, c'est ce qui est établi. Pour moi, je dis, je peux pas vivre avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes croyances. Là-dessus, je suis d'accord avec Pierre Verville. Noël, ça a tout un sens. J'aimerais terminer par un court vidéo qui a été produit par Redemptive Media et qui nous résume le sens de Noël. On va le présenter, puis je vais clore après ça. Michael?